Étranger, ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts? Donnons tout de suite la parole à notre invité.
Et utiliser un modèle et être soi-même. C'est ça qui est quand même clé, c'est de savoir à la fois conjuguer les règles de storytelling, les règles de création d'un roman, ou complètement en sortir si on est un écrivain expérimental. C'est intéressant aussi. Mais en tout cas, garder son propre fond et sa propre voix. Et les sujets qui nous touchent.
Bonjour Mona Messine.
Bonjour François-Xavier.
Je suis vraiment très content que vous ayez accepté d'enregistrer ce quatrième épisode du podcast Le Jardin avec moi. Et alors, je suis d'autant plus content qu'on est aujourd'hui dans un jardin. Alors il y aura peut-être des bruits de jardin qui vont nous accompagner pendant cette rencontre. Il y a des tilleuls, il y a l'odeur des tilleuls, il y a des roses en fleurs. C'est vraiment parfait.
Et les petits oiseaux.
Et les petits oiseaux. Ça j'y tiens beaucoup, aux petits oiseaux. C'est un bruitage réel. Donc.
Et pourtant, on est en plein Paris.
Oui, alors, c'est ça, c'est vrai. Alors, il peut y avoir aussi peut-être des bruits de la ville qui vont nous rejoindre, mais c'est un jardin qui a l'avantage d'être bien protégé. C'est un peu un cocon. J'aime bien ce jardin, justement.
Très
à vous
beau.
De découvrir duquel il s'agit.
Ah, alors, tu vas pas leur dire?
Ah non. Non, non. Alors, Mona... On va se tutoyer.
Très bien.
C'est vrai que souvent je vous vois dans le podcast, mais aujourd'hui on va se tutoyer, c'est exceptionnel. Et je suis très content que tu sois ici parce que c'est un podcast qui parle beaucoup de littérature, bien sûr, et justement du fait d'écrire. Et qu'est-ce que c'est écrire? Qu'est-ce que c'est une autrice? Qu'est-ce que c'est un auteur? Qu'est-ce que c'est un écrivain, une écrivaine? Au quotidien, vraiment, dans le sens, c'est un métier, c'est un art ou c'est un artisanat, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se pratique. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai toujours envie d'insister avec mes invités. Et grâce à toi, on va pouvoir aborder le sujet de manière très précise, et notamment à partir de quelque chose que tu as lancé en plein confinement. Donc bravo, c'était courageux.
Merci.
Et ce quelque chose, c'est une revue littéraire. Alors déjà, lancer une revue littéraire, c'est courageux, mais alors en plus le lancer dans une période un peu troublée, c'est encore plus courageux. Et cette revue, elle s'appelle Début avec un S.
Début avec un S.
Et est-ce que tu veux déjà nous la présenter pour commencer?
Bien sûr. Début, donc c'est une revue qui est née effectivement pendant le confinement. J'avais autour de moi un entourage d'auteurs, primo-romanciers notamment, qui a vu leur publication se faire reporter en raison du confinement, ou un entourage de personnes qui cherchaient à être publiées pour la première fois, ce qui est, comme on le sait, un exercice quand même assez particulier, voire difficile en France. Et j'ai eu envie, en fait, de faire naître de nouvelles choses, donc des débuts, des surprises, dans un contexte où tout le monde parlait d'un monde qui était en train de mourir, du monde d'après, etc. Et j'avais remarqué qu'il y avait quand même quelques petites choses, notamment en littérature, qui existaient déjà et qui n'allaient pas attendre cette crise et qui avaient besoin d'être exprimées, d'être portées. C'est ce qui m'a donné envie de faire quelque chose sur le thème des débuts. Et j'ai choisi la revue littéraire, tout simplement parce que je suis passionnée de littérature, de poésie, de théâtre. Et Début représente tous ces genres-là. Et son idée principale, c'est de publier des premiers textes d'auteurs inédits aux côtés d'auteurs déjà confirmés pour pouvoir leur faire acquérir un peu plus de notoriété ou les mettre en avant auprès des libraires ou sur les réseaux, tout simplement pour qu'ils soient plus lus, plus vendus aussi, parce que c'est important. Et qu'ils puissent ensuite être amenés à la publication dans des maisons d'édition plus costauds, plus établies, sur des textes entiers.
Est-ce que tu peux nous expliquer... Ah ben voilà, il y a un petit enfant, nous sommes dans un jardin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une revue littéraire, justement? Parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément.
C'est une bonne question. Une revue, c'est... donc, nous, c'est publié sur du papier imprimé. Ça peut être en ligne aussi aujourd'hui, hein, mais en tout cas, nous, on l'a fait imprimer. Ça va être une collection de petits textes. L'idée, c'est de pas avoir forcément un roman complet dans une revue, même si certaines peuvent le faire, mais d'avoir plusieurs auteurs qui publient au sein de la même revue, au sein d'un même numéro, avec des parutions finalement périodiques. Par exemple, début, ça sera 2 fois par an. Et l'idée, c'est de présenter toute une variété d'auteurs avec soit une thématique commune, soit des affinités communes, quelque chose qui va représenter et identifier la revue, mais tout en étant très varié, très différent à chaque fois pour que les lecteurs puissent avoir finalement cette... Oui, j'ai dit collection, mais je pense que c'est le bon mot, cette collection de textes.
Il y a des auteurs, donc des autrices connues dans le début, alors... Des marraines, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce Sur le premier numéro, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être marrainée par Chloé Delhomme, qui a eu le prix Médicis l'année dernière. Chloé, c'était aussi ma coach littéraire à l'école Les Mots, et elle a accepté de marrainer cette revue, notamment parce qu'on s'est rencontrés par ce biais-là, et c'est elle qui m'avait poussée à écrire dans des revues. Et donc, en cheminant sur cette réflexion-là, j'ai décidé de créer des buts. Donc, Chloé m'a accompagnée sur cette réflexion, en tout cas. Il y a aussi Samy Langerhurt, qui est un auteur chez Verdier, qui a publié un premier roman en 2018, si je ne me trompe pas. Et puis, Laure Mion-Crozet, une autrice qui est publiée chez Albin Michel. Et ces trois personnes-là, du coup, ont proposé des textes pour la revue et nous ont aidés à nous lancer.
Donc si on a envie de lire de jeunes auteurs, enfin des auteurs non publiés, on peut lire des buts. Mais comment ça se passe pour lire des buts? Où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on la trouve là?
Pour lire des buts, je trouve que le mieux, ce serait d'aller en librairie. Des buts est vendu dans une vingtaine de librairies sur Paris et dans des grandes villes de province. J'espère qu'on va pouvoir élargir le spectre des librairies et des villes disponibles d'ici les prochains mois, vu qu'on a été un peu limité par les confinements, mais bon, c'est pas grand-chose. La liste des librairies dispo est sur le site début.co, c'est O. Et Début produit aussi des textes en ligne pour d'autres auteurs qui ne sont pas dans la revue publiée, mais qu'on avait envie de montrer, d'exposer finalement sur notre site. Il y a un premier texte qui est sorti avec un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Adrien Neves, qui a publié un texte qui s'appelle « De haut en bas ». C'est l'histoire d'un petit garçon dans une maison avec un œil d'architecte, puisque Adrien était architecte. Voilà, donc c'est aussi une revue qui est commandable en ligne et ça arrive directement dans votre boîte aux lettres si vous avez envie de rester au chaud sur votre canapé pour la lire.
Alors avant de passer à une sorte de deuxième partie de cet entretien, je voulais qu'on parle plus de toi, de tes goûts, par exemple. Toi, je sais que tu écris aussi.
Ouais.
Et justement, c'est venu comment ça, pourquoi? C'est quoi ça, d'où ça vient ce goût de l'écriture? Pourquoi on écrit subitement? Pourquoi on a envie d'écrire subitement?
C'est une question que je me pose souvent parce que c'est pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. C'est-à-dire que je me suis jamais dit depuis toute petite, je veux être écrivain, voilà. J'avais des bonnes notes en rédaction de français, mais c'est à peu près toute mon histoire avec l'écriture. Ça m'est tombé dessus, comme on tombe dans la marmite. Un jour, je suis allée à un atelier d'écriture, comme j'aurais pu aller à un cours de poterie ou de cuisine. Plein de gens vous diront que c'était le destin et que ça n'était pas un hasard, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore les clés de ce mystère. Et je suis allée dans cet atelier d'écriture qui était tenu par Fabienne Jacob à l'école Les Mots. c'était un atelier sur l'intensité des textes. Je voulais juste m'exercer, avoir une petite activité comme ça. Et puis, ça a été une révélation. J'ai adoré ça. J'ai adoré lire mon texte devant les autres. J'ai adoré progresser, lire d'autres textes. Et puis, je me suis mise à écrire à plein temps et beaucoup, avec une activité centrée sur les romans et la poésie, et sans aucune explication aujourd'hui. Voilà, je cherche encore. C'est une question qui va m'accompagner quelques années, je pense. Et j'ai hâte de comprendre ou de savoir ce qui fait que j'ai écrit. Je pense que j'ai plein de choses à dire dans ma tête et que c'était un moyen d'expression. Voilà.
Est-ce que dans l'écriture, il y a une dimension, je dirais, d'engagement ou politique, peut-être, ou politique au sens noble, bien sûr, pas la politique politicienne ?
J'avais assez tendance à penser que non. Et en fait, avec la question que tu m'as posée juste avant, je réalise que même si je ne sais pas ce qui a déclenché chez moi l'écriture, je sais pourquoi je continue. C'est parce qu'il y a tellement de choses à dire, et aujourd'hui, il se passe tellement de choses. Bien sûr, il y a la crise du Covid, mais ça avait évidemment commencé avant. On est dans un moment où il y a beaucoup de bouleversements sociétaux. Je pense notamment à l'engagement féministe, qui n'est pas évidemment dû qu'aux dernières années, mais en ce moment, il y a quand même, on appelle ça la quatrième vague, mais une révolution encore plus profonde sur cet aspect-là. Il y a la partie évidemment écologique qui me touche beaucoup, tout ce qui va être mouvements sociétaux, et évidemment que ça se retransmet dans des écrits, tout simplement parce que ça me touche au quotidien, parce qu'en tant que personne, moi j'ai beaucoup de causes qui vont me tenir à cœur et sur lesquelles j'ai envie d'écrire, beaucoup de choses qui me touchent, et j'essaie aussi dans ce que j'écris d'en parler, pas forcément pour les dénoncer ou avec un but de convaincre ou de lancer des messages, mais en tout cas pour faire vivre ces sujets, soit au travers de personnages, soit au travers, et notamment dans mes textes qui sont publiés dans des revues, de petits textes qui ont l'air d'être soit des pamphlets, soit des petits moments de critique ou des petits moments aussi de perception d'une émotion et de retransmission de cette émotion-là pour les lecteurs.
Donc il y a un engagement, c'est certain.
Qui n'est pas forcément conscient, mais évidemment, je ne sais pas si c'est un engagement comme pourrait être un engagement militant, par exemple, mais c'est évident qu'il y a une dimension qui se traduit dans mes textes en fonction des émotions que je vais ressentir et de ce qui va ressortir dans l'écriture. Et ça se traduit surtout dans les formes différentes que j'utilise, parce que dans tout ce qui va être roman, etc., on peut avoir une pensée un petit peu plus longue, et après, dans toute la partie poésie, chanson, ça va être des émotions plus vives, plus immédiates. Et ça, c'est vrai que c'est un média que je trouve très intéressant.
Alors, tu m'as tendu une perche tout à l'heure, parce que tu as déjà évoqué les ateliers d'écriture. Alors, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime bien en discuter avec les gens, parce que on part souvent en France notamment, du principe que l'écrivaine, l'autrice, l'auteur ont un génie personnel très fort, ou sont très très doués, ou sont habités comme ça d'une... Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un gène particulier qui leur permet d'écrire des histoires fabuleuses. Mais on sait aussi, et ça c'est beaucoup les anglo-saxons qui nous l'apprennent, hein, parce que chez eux c'est très développé, notamment à l'université, ce qu'on appelle creative writing, donc ce qui serait l'équivalent peut-être en français d'atelier d'écriture. Je ne sais pas comment on traduit creative writing, écriture créative. Et donc voilà, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'évidemment, on est plus ou moins doué pour écrire, qu'évidemment, tout le monde n'écrira pas peut-être le chef-d'œuvre tant attendu du XXIe siècle, mais quand on a dit tout ça, on peut aussi dire que écrire, eh bien, cela s'apprend. Ça, je trouve, c'est le message positif. Et puis, c'est un message que j'ai envie justement de faire passer, chers auditeurs. Écrire, ça s'apprend. Qu'est-ce que tu en penses, Mala?
Eh bien, je suis un exemple vivant de ça, puisque avant, il y a 3 ou 4 ans, et avant de tomber dans la marmite de l'écriture, comme je disais tout à l'heure, effectivement, je n'écrivais pas. Alors, j'écrivais des emails, des SMS, comme tout le monde, mais je ne m'étais jamais dit « je peux écrire un roman, je suis capable d'écrire un roman ». Je trouve que c'est un bon parallèle que tu as fait avec la partie anglo-saxonne du monde. Chez les Américains, par exemple, il y a des cursus d'écriture. Et les auteurs là-bas vont écrire un livre, passer 2 ou 3 ans à en faire la promotion, faire des ateliers autour, transmettre aux autres ce qu'ils ont voulu dire, puis écrire un autre livre, etc. C'est une dynamique qu'il n'y a pas forcément en France, parce qu'on a justement cette image de l'écrivain est un génie qui écrit tout seul dans sa chambre, etc. Bon, ça change beaucoup quand même là sur ces dernières années. Il y a des ateliers d'écriture qui ouvrent. On s'aperçoit aussi qu'écrire un roman, c'est quelque chose qui va être collectif. Alors bien sûr, il y a la solitude de l'écrivain sur les premiers jets ou sur les reprises et sur l'écriture, mais il y a un gros travail des éditeurs. Il y a un travail des bêta-lecteurs aussi autour des écrivains. Ça se fait beaucoup, en fait, une fois qu'on a fait une première version du roman, de faire relire à 3, 5, 10 personnes pour avoir des avis, pour compléter ce qu'on a écrit, pour obtenir des premières impressions et réajuster son texte. Et finalement, non seulement écrire, ça s'apprend par des ateliers d'écriture. On voit plein de podcasts pulluler en ce moment, des livres, vraiment, il y a des workshops, il y a des conférences, il y a des stages, il y a vraiment de tout. Et non seulement ça s'apprend, mais aussi ça se travaille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pense qu'on a appris certaines clés, les textes se reprennent à l'infini, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'ils soient bons. Et la vraie clé de comment on parvient à écrire un roman complet alors qu'on n'avait pas écrit avant, c'est vraiment de réaliser qu'on n'écrit pas bien du premier coup et qu'il faut revenir sur l'ouvrage tous les jours ou toutes les semaines si on n'a pas autant de temps que ça. Et puis qu'un texte vraiment peut gagner en profondeur, gagner en qualité grâce à ce travail de reprise qui est excessivement important.
Mais qu'est-ce qu'on appelle en fait atelier d'écriture? C'est quoi? Ça se matérialise comment? Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment?
Je vais prendre l'exemple de l'école Les Mots, que j'aime beaucoup parce que déjà j'ai commencé à écrire là-bas et c'est un très bon exemple de ce qui peut se faire. Je crois que c'est même la première école d'atelier d'écriture en France. C'est une école qui va finalement organiser des ateliers dans lesquels un écrivain publié va intervenir, apprendre ce qu'il connaît ou ce qu'il ne connaît pas mais qu'il a envie de faire découvrir à d'autres, à des participants. On appelle ça des participants d'ateliers d'écriture, pas des élèves ou des étudiants, ce qui serait un petit peu scolaire. Je pense que chaque auteur a un peu sa manière de faire un atelier, mais moi ce que j'ai vécu, ça va être par exemple une discussion autour d'un thème d'écriture, un travail avec l'auteur qui a sélectionné un texte qui va correspondre à une consigne ou à un thème d'écriture ou à une technique particulière. Et puis le moment le plus important finalement, ça va être le temps d'écriture des participants, avec à la fin une restitution lue des participants qui lisent leur propre texte et un partage des autres participants sur ce qu'ils ont pu ressentir, sur ce qu'ils aimeraient améliorer pour pouvoir justement corriger, améliorer, pousser les textes et amener le participant qui a écrit ce texte-là sur sa voix à lui, avec sa voix à lui, avec des retours du collectif en fait, qui vont vraiment ancrer un texte dans quelque chose de très qualitatif et puis de contemporain. Et je parle pas pour l'opposer au sens de la littérature classique, mais je veux dire d'avoir différentes voix de personnes vivantes aujourd'hui qui vont amener un texte à se dire ça apporte quelque chose de supplémentaire, ça c'est qui tu es, ça va parler à des gens, etc. Et qui vont donner en fait à un texte sa qualité jusqu'à potentiellement pouvoir être lu par des éditeurs et publié derrière.
Oui, parce qu'effectivement ça me faisait penser... Bon. On a dit que l'écriture, c'est quelque chose d'assez solitaire, bien sûr. Il y a des grands moments de solitude.
Des grands moments, très longs.
Face à la page blanche, comme on dit.
Qui sont nécessaires. Il ne faut pas faire tout en atelier. Il y a vraiment
la créativité.
Ouais.
Mais voilà, ça me faisait penser à cette relation qu'ont alors les écrivains déjà publiés avec leur éditeur, puisque ce dialogue, effectivement, peut avoir lieu. Alors ça va dépendre de chacun, bien sûr, de chaque éditeur et de chaque auteur aussi, puisqu'il y en a qui aiment plus ou moins avoir un dialogue sur ce qu'ils écrivent. Mais voilà, c'est un moyen peut-être aussi pour justement de jeunes auteurs ou non publiés d'avoir cette notion de collectif et d'être pas toujours tout seul en face de leur manuscrit, de leur tapuscrit, je sais pas comment on dit d'ailleurs.
Exactement, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a cette marche à franchir en fait entre j'écris tout seul dans mon coin et je suis convaincue que ce que j'écris c'est bon, j'ai des personnes qui l'ont un petit peu commenté. Et surtout, j'ai quelqu'un de technique et de connaisseur de la littérature qui va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là tu peux pousser, là tu dois retravailler, je sais pas, par exemple, la structure ou le personnage ou l'intrigue ou ce genre de choses. Et moi, ce que j'ai vécu en tout cas, c'est que ce moment où j'avais plein de textes, mais j'avais jamais été confrontée vraiment à un éditeur ou à quelqu'un qui aurait pu m'amener ou en tout cas mettre la dernière touche sur mon texte, ça a duré assez longtemps et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à vivre et aussi qui peut freiner l'accession à la publication de jeunes auteurs. Bien sûr, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Bien sûr, j'ai aussi aujourd'hui rencontré des auteurs publiés qui vont me dire qu'il n'y a pas forcément ce travail avec leur éditeur, mais qu'ils l'ont à côté, par des collègues par exemple, ou des amis.
Oui, Lyoko Sekiguchi qui avait eu la gentillesse d'enregistrer le premier épisode du podcast avec moi, me racontait que c'était une amie très chère, qui à chaque fois était sa première lectrice, mais pas seulement lectrice, effectivement. Enfin une lectrice avec des retours très précis sur ce qu'elle écrit, etc. Donc c'est, voilà, une relation
une
comme ça.
Une lectrice avec un stylo rouge.
Voilà, une lectrice, effectivement, avec un stabilo.
Voilà.
Et je crois aussi qu'elle a des éditeurs qui sont, notamment chez POL, qui sont des éditeurs qui font des retours très précis aussi aux auteurs. Donc voilà, c'est complètement cette relation-là. Retrouver un peu de collectif.
Exactement. Et du coup, l'atelier d'écriture permet vraiment ça. Soit de se constituer finalement son groupe d'amis avec Stabilo, soit d'avoir un petit réseau d'auteurs justement qui peut aider sur ça, pour se faire des contacts dans l'édition avec les auteurs ou avec d'autres jeunes auteurs, non pas primo-romanciers, mais primo-tapuscritiers, je ne sais pas comment on dit. Voilà, ça c'est vraiment important. Et à travers Début, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Il y a un comité de lecture de 3 personnes. Et quand on reçoit des textes qui sont presque prêts à la publication, mais pas encore tout à fait, on essaie d'accompagner les auteurs, soit pour un prochain numéro, soit pour une publication en ligne, soit pour simplement leur donner quelques directives générales pour qu'ils puissent améliorer et progresser sur leurs écrits.
On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Et il y a toujours cette question que j'aime bien poser, qui est est-ce que tu as un conseil à donner justement à quelqu'un qui a... S'il ne fallait en garder qu'un, qui a envie de se lancer dans l'écriture. Mais donc, alors, c'est vrai qu'on dit écriture depuis le début, et on peut écrire pour tout un tas de raisons. On peut écrire pour soi, on peut écrire pour son journal intime, on peut écrire pour sa psychanalyse, que sais-je. Bon, là, on parle d'écriture dans le but d'être publié, si possible, quoi. Et quand on va se lancer dans cette aventure-là, c'est spécifique. Est-ce qu'il y aurait un conseil comme ça que tu as envie de donner ?
C'est un conseil très très naïf, très très mignon, qui va être simplement soyez vous-même. C'est-à-dire que vos textes seront jamais aussi bons que si vous creusez au fond de vous-même et que vous écrivez ce que vous avez à dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de conseils ou qu'il ne faut pas affiner sa forme ou la sculpter. Les personnes qui vont vous dire écris plus comme ceci ou plus comme cela ont sans doute souvent raison. Et ça n'enlève pas à qui vous êtes, c'est juste une façon de faire rentrer votre texte dans quelque chose qui est sur un format publiable. Mais dans le fond de ce que vous écrivez et dans ce qui vous touche et dans le choix de vos sujets, il faut être assez intransigeant et vraiment respecter sa matière première. C'est la seule façon en fait, d'aller au bout d'un texte et d'un roman. Sinon, on perd de la motivation en route ou de la croyance en soi et le texte sera beaucoup moins solide.
Oui, pas forcément essayer de plaquer des modèles, mais vraiment partir un peu de soi, de son expérience.
Il faut partir de soi et de son expérience. Je trouve ça très important. Et puis, si on ne le fait pas, finalement, on n'ajoutera rien du tout à la littérature et le livre aura moins d'intérêt. Après, on peut et utiliser un modèle et être soi-même. C'est ça qui est quand même clé, c'est de savoir à la fois conjuguer les règles de storytelling, les règles de création d'un roman, ou complètement en sortir si on est un écrivain expérimental, c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, garder son propre fond et sa propre voix et les sujets qui nous touchent.
Écrire, tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève.
Et la dernière question, tout simplement, c'est est-ce que tu aurais des conseils de lecture ?
Il y a un livre qui est sorti l'année dernière au début du confinement et que j'ai beaucoup aimé et je voudrais en parler parce que à cause de cette période il est peut-être passé inaperçu pour certains. C'est un roman qui est sorti chez Le Seuil et qui s'appelle L'ombre de ma mère de Claudine Londres. C'est un très beau texte qui est très poétique. J'ai même pas envie de vous en donner le synopsis tellement il est un peu mystérieux pour moi et j'ai trouvé beaucoup d'harmonie dans ce texte et en même temps des petits moments pépites et des scènes très jolies, très tendres. Donc je vous recommande vraiment ce livre qui s'appelle L'ombre de ma mère.
Et l'auteur ?
Claudine Londres.
Merci beaucoup Mona.
Je t'en prie.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup chères auditrices et chers auditeurs d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.